Bonjour à tous. Merci de rester fidèles à VOA Afrique et surtout de suivre votre santé, votre avenir, votre programme d'information et d'éducation sur les problèmes de santé. Au micro, Nani Teutalani. Un petit rhume, un léger mal de gorge, vous n'avez pas envie de consulter un médecin pour si peu? Quand recourir à l'automédication? Quelles sont les précautions à prendre quand on s'automédique? Surtout, quels sont les dangers de l'automédication? Quelles sont les questions auxquelles répondra le professeur Francine Ntoumi dans ce rendez-vous hebdomadaire de la santé?
Les gens meurent beaucoup. Quelquefois, on ne sait pas pourquoi. Peut-être parce qu'on n'est pas allé consulter à temps et qu'on a soigné soi-même les symptômes, mais pas les maladies que l'on avait. Quand on va voir le médecin, généralement, c'est trop tard. La personne décède. C'est de dire que l'automédication, attention.
Ensuite, dans la deuxième partie présentée par Lilian Moudou, nous vous proposerons un carnet de santé qui portera sur l'allaitement maternel.
Votre santé, votre avenir, l'invité de la semaine.
C'est le moment de suivre notre discussion avec le professeur Francine Ntoumi. Elle est biologiste moléculaire et présidente de la Fondation congolaise pour la recherche médicale à Brazzaville en République du Congo. Elle est aussi très impliquée dans la formation des étudiants et des personnels en recherche biomédicale. Bonjour professeur.
Bonjour Nani.
En tant que professionnel, comment pouvez-vous définir l'automédication?
L'automédication, je définirais cela comme étant le fait d'administrer donc un traitement à un individu ou à soi-même sans passer par un médecin, puisque seul le médecin est habilité à prescrire des médicaments. Donc quand on décide soi-même d'un traitement sans un diagnostic fait par un professionnel et une prescription faite par un professionnel.
Mais est-ce que tous les mots méritent une consultation médicale?
Je dirais peut-être pas tous les mots, puisqu'on peut acheter des médicaments, vous savez bien, sans ordonnance. Hein. Par exemple, le paracétamol, quand on a des symptômes bénins, on peut prendre un médicament. Les mots bénins, peut-être, peuvent être traités par soi-même, mais sinon, il faut passer par une consultation médicale.
Quelles sont les raisons qui peuvent pousser les gens à avoir recours à l'automédication?
Les raisons sont multiples. Hein. Déjà, chez nous, hein, on s'adresse donc aux Africains ou aux populations africaines. Ce qui pousse les gens à l'automédication, déjà, le coût de la vie. Consulter un médecin peut avoir un coût. Même si la consultation est gratuite, les médicaments sont tous importés et donc ça a un coût. Ce qui fait que ce coût étant trop élevé pour les familles, ils se retournent vers ce qui leur semble le plus abordable. Donc les médicaments vendus dans la rue, dans les marchés. Et ça, c'est une première explication. La deuxième, c'est qu'au niveau de nos pharmacies, il n'est pas demandé de prescription forcément pour avoir un médicament. On peut soi-même donner le nom d'un médicament et on est servi, ce qui honnêtement facilite l'automédication.
Nous avons des auditeurs comme Faustin Bouya de la RDC qui se demandent si l'automédication ou le succès de l'automédication n'est pas dû à la pauvreté. Et puis Bouira Djodienne, il dit aussi la même chose. Est-ce que ce n'est pas la conséquence de la pauvreté qui gangrène les habitants des pays africains qui fait que l'automédication connaisse du succès?
Exactement, non. Et c'est un facteur favorisant. Maintenant, il y a la vente de médicaments libres sur Internet. Mais là, je pense qu'on n'est pas encore des grands consommateurs d'achat sur Internet des médicaments. Mais ça, ça va favoriser aussi, stimuler ceux qui se lancent dans l'automédication. Mais chez nous, la pauvreté est un facteur très important de l'automédication.
En général, les gens ont parfois recours à des recettes qu'on appelle des recettes des grands-mères pour soigner chez soi des maladies, parfois avec des plantes ou avec ci, avec ça. Est-ce que cela constitue aussi une sorte d'automédication?
Ma réponse serait oui, c'est de l'automédication parce que quand les grands-mères soignent, alors elles soignent, elles n'ont pas de compétences particulières. Elles ont acquis ces informations par le bouche à oreille. Et l'automédication, généralement, c'est le bouche à oreille. Hein. Ma copine avait les mêmes maux de ventre que moi. Elle me dit que ce traitement a marché et moi aussi je l'essaie. Donc dans ce sens-là, je dirais que le traitement miracle des grands-mères sont de l'automédication. Par contre, je fais une différence avec les tradithérapeutes, ceux qui utilisent la pharmacopée traditionnelle. Là, c'est autre chose parce qu'il s'agit d'un savoir, la connaissance des plantes, la connaissance des racines, la connaissance de l'environnement. Là, il ne s'agit pas d'automédication puisque ces tradithérapeutes, quand ils administrent un traitement, ils savent, ils ont des dosages aussi parce que le médicament soit peut-être un poison. Il peut vous guérir, mais il peut aussi vous tuer. Donc, en tous les cas, que ce soit les médicaments traditionnels ou les médicaments dits modernes, la même molécule peut vous soigner, mais la même molécule peut aussi vous tuer. D'où besoin de connaissances, la connaissance des thérapeutes ou la connaissance des médecins conventionnels.
On peut quand même recourir à l'automédication pour des symptômes bénins, mais quelles sont les maladies pour lesquelles il est forcément conseillé de courir voir un médecin avant d'acheter un médicament?
Déjà, ce sont les douleurs sévères, les douleurs intenses, inhabituelles. Une douleur que l'on n'a jamais eue et qui paraît, qui persiste, qui est intense, tout cela doit pousser à immédiatement aller consulter.
C'est une mère qui pose la question. Elle dit, mon jeune enfant a de la fièvre. Est-ce que je peux lui administrer un médicament antipyrétique réservé à l'adulte?
Oh ben non, bien sûr que non. Déjà, elle dit le mot-clé adulte et enfant. Alors, les populations justement vulnérables, alors enfin, les plus, nous sommes tous vulnérables face aux médicaments, bien entendu, mais les tranches auxquelles il faut faire très attention, les femmes enceintes, les enfants et les personnes âgées. Donc, non, on ne peut pas donner à un enfant un traitement qui était prévu pour un adulte. Il y a des essais dans la recherche biomédicale, il y a des essais cliniques, justement, de médicaments quand on veut passer au traitement chez l'enfant, les traitements pédiatriques. Donc, cela fait partie d'une recherche très spécifique. Donc, non, une maman ne peut pas elle-même décider de donner un traitement d'adulte à un enfant.
Pourquoi les femmes enceintes, les enfants et les personnes âgées constituent des personnes à risque en cas d'automédication?
Parce que les femmes enceintes portent un bébé et donc elles sont, leur immunité diminue. C'est une population vulnérable. Il faut faire très attention que le médicament n'ait pas un impact sur le fœtus. Donc, il ne faut pas s'amuser avec cela. De même, les personnes âgées aussi ont une immunité qui a changé. Donc là aussi, il faut être beaucoup plus attentif. Les enfants, j'en ai parlé tout à l'heure.
Si j'ai acheté un médicament en pharmacie, mais qui est indiqué pour le traitement du mal de tête, par exemple, mais j'ai de plus en plus mal à la tête. Est-ce que je peux décider moi-même de doubler la dose ou pas?
Non, bien sûr, jamais, jamais. Parce que justement, il y a certains médicaments qui sont en vente libre, par exemple, comme le paracétamol pour certaines douleurs, qui ne sont pas persistantes. Mais même ce type de médicament a des prescriptions bien précises, des dosages bien précis sur 24 heures. Donc, une douleur inhabituelle et persistante doit amener la personne à aller consulter immédiatement. Il ne faut absolument pas s'amuser avec cela parce qu'un mal de tête, c'est un symptôme qui peut cacher beaucoup de maladies différentes. Et soi-même, on ne peut pas savoir que ce mal de tête est lié à telle maladie. Et peut-être que le traitement que moi, je vais prendre va augmenter, va accentuer cette maladie. Donc, il faut absolument toujours aller consulter.
Si j'avais une prescription médicale et que j'ai presque les mêmes symptômes, est-ce que je peux réutiliser les mêmes médicaments sans avis du médecin?
Ça, c'est une pratique qui est assez justement courante chez nous, où généralement, les gens se donnent les traitements. Chacun décrit ses symptômes et puis l'autre lui propose un traitement qui semblerait-il ait marché sur lui. Mais les symptômes ne sont pas forcément le reflet de la même maladie. Donc là aussi, nous ne sommes pas pareils. Chaque individu est unique. Nous ne sommes pas égaux. Nous pouvons avoir une immunité différente, notre manière de réagir différemment face aux maladies, les allergies, ce qu'on appelle les allergies. Une molécule peut marcher sur quelqu'un et une autre personne peut être allergique à cette molécule qui peut la tuer. Les réactions allergiques sont très dangereuses. Donc, voyez-vous, nous ne sommes pas égaux. Nous ne nous ressemblons pas. Même si nous sommes tous des êtres humains, nous avons des spécificités. Nous vivons dans des environnements. Nous mangeons différemment. Donc, la nourriture a un impact sur nous, sur notre manière de réagir. Il y en a qui sont sportifs, d'autres qui ne le sont pas. Nous sommes différents, donc. Nous ne pouvons pas calquer un traitement en apparence qui a marché sur l'un. Non, il faut passer par des professionnels.
Et si j'ai des médicaments qui sont à peine périmés dans mon armoire, qu'est-ce que je vais en faire? Est-ce que je peux quand même les utiliser pour quelque temps?
Non, je ne saurais encourager ce genre de pratique. Il faut généralement, je crois, les rapporter à la pharmacie qui récupère ces médicaments et le pharmacien saura quelle chaîne d'élimination utiliser.
Tous les médicaments qui paraissent même inoffensifs comme le paracétamol peuvent conduire à une intoxication.
Mais oui, justement, par exemple, le paracétamol, je pense qu'il ne faut pas utiliser un certain dosage. Il y a un certain dosage prescrit par 24 heures. Pourquoi il y a ce dosage? Parce qu'au-delà, on peut entraîner de la toxicité. Donc cette molécule qui était censée vous soulager peut se retourner contre vous et devenir dangereuse parce que vous avez fait un surdosage. Donc quand un médicament est mis sur le marché, un certain nombre d'informations ont été collectées. Il y a les essais cliniques qu'il y a eu avant. Et donc, cela permet de connaître les effets indésirables, d'avoir un peu une carte d'identité de ce médicament. Et on sait qu'il ne faut pas dépasser tel dosage en fonction du poids, en fonction d'un certain nombre de paramètres. Ce n'est pas une plaisanterie. Les essais cliniques coûtent extrêmement cher. Donc, s'il y a ces essais cliniques, c'est justement pour sauver la vie des gens, des individus. Donc, il faut se baser là-dessus pour prendre son médicament et pas soudain soi-même décider sur la base de rien de changer les dosages. Peut-être qu'il y a des données qui disent que ce surdosage, quand on est dans une certaine situation, peut entraîner la mort, peut entraîner des séquelles. Donc il faut faire très 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 attention. Le paracétamol peut s'avérer dangereux dans certaines situations, absolument. Encore une fois, un médicament qui soit traditionnel ou conventionnel, c'est un produit dangereux. C'est-à-dire que c'est un produit qui est censé vous soulager, mais avec un certain dosage que le tradithérapeute connaît ou que le pharmacien ou le médecin connaît. Donc, il faut respecter cela. Moi, je vais vous donner juste un exemple. J'ai perdu un oncle il n'y a pas très longtemps qui a consommé une plante qu'il était acheté lui-même au marché Total et qui l'a tué. Il est mort de saignement et cette plante l'a tué. Et pourtant, c'est une plante médicinale qui est censée soigner. Ben, mon oncle est mort, tout bêtement.
Justement, si on pratique l'automédication ou on continue de pratiquer l'automédication, quels que soient les maux dont on souffre, à quel danger s'expose-t-on?
On peut avoir des séquelles, des effets secondaires bénins ou sévères. On peut avoir des éruptions cutanées, des boutons. On peut avoir des réactions inattendues qui peuvent partir ou rester. On peut aller jusqu'à des handicaps et on peut aller jusqu'à la mort. Ça, c'est individuellement. Mais en plus, par exemple, pour les antibiotiques, qu'est-ce qui se passe? Les antibiotiques, il y a de la résistance aujourd'hui aux antibiotiques, ce qui fait qu'il y a des gens qui ne peuvent pas être soignés parce que les bactéries deviennent résistantes aux antibiotiques. Mais parce que les antibiotiques sont utilisés n'importe comment. Et ce qui fait que les bactéries ont vu la molécule tellement de fois qu'ils savent comment contourner cette molécule. Elles mettent en place des mécanismes pour résister aux antibiotiques. Et donc, cette automédication, certes, là, c'est un impact sur la société. Donc, quand on le prend sur soi, on peut se mettre en danger, mais on peut aussi avoir un impact sur nos voisins qui, les pauvres, respectent, ne font pas d'automédication. Mais vous, par votre automédication, par le fait que vous utilisez n'importe comment les médicaments, ben lui, quand il est malade, ses parasites ou ses bactéries ou ses virus ne peuvent plus être éliminés parce que ces agents connaissent tellement bien les molécules que ces molécules ne leur font plus rien. Donc on met en danger le médicament par l'automédication aussi. Donc on met en danger la protection des autres. Donc c'est deux volets. Soi-même, on se met en danger, mais on met aussi en danger les autres. Et le troisième volet, c'est le portefeuille. Quand on fait de l'automédication, on se soigne intuitivement. On peut se tromper. Ce qui fait qu'on dépense de l'argent à aller acheter un mauvais médicament. On perd du temps. Et jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'on ne guérit pas, et on va voir le médecin, et on achète. Donc, on dépense plus d'argent, finalement, avec de l'automédication, vous voyez. Donc, il y a trois niveaux, au niveau individuel, au niveau de la société, au niveau de son propre portefeuille aussi.
Lorsqu'on pratique l'automédication sans mesure, il y a des risques auxquels on s'expose. Alors, de quelle façon devrait-on donc pratiquer l'automédication? Quelles sont les précautions qu'on devait prendre lorsqu'on pratique l'automédication?
Je ne peux même pas dire de précautions. Je suis contre l'automédication. Donc, c'est pour des symptômes bénins. comme il y a des médicaments qui sont en vente libre, ceux-là, donc, pour les petites blessures, les petits maux, les diarrhées, maux passagères, les maux passagers, voilà, pour ce genre de maux, oui, sur les médicaments qui sont mis en vente libre. Ça veut dire que le législateur sait que ces médicaments pris correctement sont de danger vraiment faible pour la population. Encore une fois, pris modérément et pour des maux passagers. Mais dès lors que ce sont des maux persistants, il faut immédiatement aller consulter.
Et si on a un mal et que peut-être l'hôpital est loin, on va à la pharmacie. Est-ce qu'on peut quand même demander conseil à un pharmacien?
Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Le pharmacien est là pour conseiller, bien sûr.
Il y a Ordi Richel Okuo, il est à Brazzaville et lui, il se demande pourquoi l'automédication ne s'arrête pas en Afrique et en particulier au Congo. Pourquoi elle gagne de l'ampleur?
Le portefeuille qui est de plus en plus vide, c'est la pauvreté, l'information aussi, il faudrait plus s'informer sur les risques de l'automédication aussi, mais quand il n'y a rien dans la poche...
Comment combattre l'automédication? Parce que ça, c'est la grande question. On a vu les risques, on a vu les conséquences auxquelles on s'expose quand on pratique l'automédication. Mais comment est-ce qu'on peut combattre l'automédication?
Par l'information, l'éducation de la population, l'accessibilité aux soins primaires, donc une amélioration des systèmes de santé. Et ça permettrait de réduire l'automédication, oui.
Le combat contre l'automédication ne concerne-t-il que la population ou bien les autorités sanitaires, les autorités politiques aussi sont concernées?
Tout le monde est concerné, évidemment. Tout le monde est concerné, puisque l'accessibilité aux soins primaires, ça, c'est de la responsabilité de l'État, qui est un centre de santé pour un certain nombre, une taille de la population, que des soins de qualité soient apportés à la population, c'est leur responsabilité. L'information, la diffusion de l'information, c'est leur responsabilité. Après, l'éducation, ça, c'est la responsabilité des familles et de l'individu, qui doit transmettre ce qu'il a appris. Donc c'est une responsabilité partagée, mais en grande partie, c'est la responsabilité de l'État de réduire le poids de l'automédication. La vente sur les marchés, on sait que c'est interdit et ça continue. Bon, c'est pas l'individu lambda qui va aller réguler ce qui se passe sur les marchés. C'est à l'État de stopper ça. Ce sont des poisons qu'on vend sous le nez de tout le monde. Et, bon, que voulez-vous, ça, c'est pas la responsabilité de la population. C'est la responsabilité de l'État de mettre en retrait ce genre d'étalage de médicaments vendus dans la rue.
Quel conseil vous pouvez donner à la population pour qu'elle-même se protège contre les excès ou les conséquences de l'automédication?
C'est juste dire l'automédication, ça a un revers, hein, à savoir qu'on se traite sans vraiment savoir ce que l'on a. Ce qui veut dire qu'on a une chance sur je ne sais pas combien de tomber juste. Et donc, on constate chez nous que les gens meurent beaucoup et que quelquefois, on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi, peut-être parce qu'on n'est pas allé consulter à temps et qu'on a soigné soi-même les symptômes, mais pas les maladies que l'on avait. Et ce qui fait que quand on va voir le médecin, généralement, c'est trop tard et la personne décède. C'est de dire que l'automédication, attention, on peut se mettre soi-même en danger déjà, mettre son enfant en danger aussi. Et puis, encore une fois, pour la résistance aux antibiotiques, par exemple, bon, là, on met en danger des médicaments qui pourraient soigner des gens et qui ne pourront pas être soignés parce que on a exposé les pathogènes aux antibiotiques ou aux médicaments qui devraient les tuer. Donc, l'automédication est un danger pour nous tous, à titre individuel, mais aussi pour la société.
Merci beaucoup, professeur.
Merci.
C'était notre entretien avec le professeur Francine Ntoumi, biologiste moléculaire et présidente de la Fondation congolaise pour la recherche médicale à Brazzaville en République du Congo. Le professeur Ntoumi est aussi très impliqué dans la formation des étudiants et des personnels en recherche biomédicale. À présent, nous vous invitons de suivre Carnet de santé avec Linor Moudou sur l'allaitement maternel.
Cette semaine, dans Carnet de santé, la première banque de lait maternel d'Afrique de l'Est apporte du soulagement aux bébés dans le besoin. C'est dans cette édition de Carnet de santé.
Bonjour, ravie de vous retrouver pour une autre édition de Carnet de santé. C'est la première alimentation pour la plupart des nouveau-nés. Selon les experts, l'allaitement maternel constitue l'alimentation idéale pour la croissance et le développement sain des nourrissons et contient le mélange parfait de vitamines, de protéines et de graisses pour ces enfants. L'OMS rapporte que près de 800 000 vies d'enfants seraient sauvées chaque année si l'allaitement au sein devenait une pratique quasiment universelle. Mais seulement 40% des nourrissons de moins de 6 mois sont allaités exclusivement au sein au niveau mondial. Au Kenya, l'hôpital maternel Pumwani de Nairobi a créé la première banque de lait maternel d'Afrique de l'Est afin de fournir du lait aux bébés dans le besoin. Comme le rapporte Sarah Kimani de Nairobi, la banque de lait semble avoir un impact. Le récit est de Mohamedou Humfa.
Il y a quelques jours, Anne Oma a donné naissance à son deuxième bébé, une petite fille prématurée née 4 semaines avant le terme normal de sa grossesse. Ouma est malade et ne peut pas allaiter son nouveau-né comme le recommande l'Organisation mondiale de la santé. Ouma n'aurait eu d'autre choix que de recourir à du lait artificiel réputé moins sain. Heureusement, la maternité de l'hôpital de Pumwani à Nairobi dispose de lait maternel grâce à une banque de lait ouverte en mars 2018.
La banque m'a aidée parce que quand j'ai eu mon bébé, je suis tombée malade et je ne pouvais pas allaiter.
Pour alimenter cette banque de lait, l'hôpital s'appuie entre autres sur des mères qui fréquentent déjà les services de la maternité.
Mes seins étaient gonflés et douloureux parce que quand j'ai accouché, ma fille était malade. Elle ne pouvait pas téter. J'ai donc choisi de faire un don aux femmes qui n'ont pas de lait ou aux bébés orphelins ou abandonnés.
Le ministère kényan de la Santé, en partenariat avec l'ONG américaine PATH, a lancé cette banque de lait en 2018. Une banque dont l'objectif est de réduire le nombre de décès de nouveau-nés à Nairobi, actuellement 39 fois plus élevé que la moyenne nationale au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda. Même si seulement 58 bébés dans le besoin ont bénéficié de la banque de lait jusqu'à présent, le personnel de l'hôpital fait savoir que davantage de mères partent avec leur nouveau-né en bonne santé.
Bien que le projet soit encore récent, nous avons constaté que le taux de mortalité néonatale est en train de diminuer considérablement.
Cette banque de lait est en tout cas une aubaine pour de nombreux bébés, en particulier les prématurés comme le bébé d'Anne Oma. Selon l'Organisation mondiale de la santé, les bébés prématurés ont plus de chances de survie s'ils sont nourris au lait maternel. La banque de lait de l'hôpital de Pumwani est la première en Afrique de l'Est et la deuxième seulement sur le continent africain, avec une autre située en Afrique du Sud. Si cette banque fonctionne bien, les autorités kényanes envisagent d'en créer d'autres à travers le pays.
Pour en savoir davantage sur l'allaitement maternel, nous avons avec nous en studio Aïta Cissé, conseillère technique principale pour l'Afrique de l'Ouest de l'organisation Alive and Thrive. Aïta Cissé, merci d'être avec nous.
Merci, bonjour.
Alors tout d'abord, pourquoi l'allaitement des bébés dès les premières heures de la vie est si important pour la mère aussi bien que pour l'enfant?
Vous savez, l'allaitement maternel immédiat, que nous appelons également mise au sein immédiate, est vraiment le meilleur cadeau qu'une maman peut offrir à son bébé dès sa naissance pour lui souhaiter la bienvenue. Pour la simple raison que ce lait, ce premier contact entre la mère et le bébé, permet à ce dernier de recevoir le lait jaune que nous appelons communément colostrum. Mmh. Et ce lait-là est extrêmement riche en éléments protecteurs qui permet au nouveau-né de développer son système immunitaire. Et ce lait le protège de l'infection et donc des maladies. Et pour la maman, ce premier contact-là lui permet de réduire les risques d'hémorragie. Donc c'est un moment clé de la vie d'un enfant, mais également de la vie d'une maman, qu'il ne faut jamais rater.
C'est très intéressant. Nous savons que dans de nombreuses cultures africaines, l'allaitement est une tradition. Oui. Mais certaines statistiques montrent que seulement 20% de nourrissons de moins de 6 mois sont allaités par leur maman. Pourquoi et que faire?
Oui, l'allaitement est une culture en Afrique. Et ça fait même partie de l'identité de la femme africaine.
Absolument.
Mais juste pour préciser que l'allaitement n'est pas remis en question, mais c'est surtout l'exclusivité de l'allaitement qui est remis en question.
D'accord.
Ça veut dire que le bébé jusqu'à l'âge de 6 mois ne doit recevoir ni eau, ni aucun autre aliment, ni aucun autre liquide, jusqu'à l'âge de 6 mois. Et malheureusement, ça ne se fait pas systématiquement en Afrique pour des raisons culturelles. Et le plus simple et le plus évident qu'on peut donner, c'est l'addition de l'eau au lait maternel. Parce que pour les communautés, pour les familles, pour les femmes, pour les mères, oui. Le nouveau-né, le bébé, est un être vivant. Donc, il a besoin d'eau, comme tous les êtres vivants. Oui. Et en plus de l'eau,
oui.
Donc, il y a l'introduction assez précoce des aliments solides, oui. Qui ne sont pas appropriés, adaptés à l'âge de l'enfant.
D'accord. Alors, nous nous sommes rendus à Lagos, au Nigeria, et avons demandé à des mamans quels défis ont-elles rencontrés lorsqu'elles ont allaité leur bébé. Regardez.
L'allaitement exclusif consiste à allaiter un enfant pendant 6 mois exclusivement, sans mélanger ni nourriture ni eau. Maintenant, concernant les défis, ceux que j'ai rencontrés quand j'allaitais mon bébé étaient de ne pas pouvoir le faire exclusivement parce que je devais reprendre le travail après 3 mois. J'ai donc essayé la méthode d'extraction, mais cela ne fonctionne pas pour moi. Je conseille donc aux femmes, si elles en ont la possibilité, d'allaiter leur enfant exclusivement. C'est bon pour l'enfant et cela aidera même la mère à prévenir le cancer.
Lorsque vous allaitez pendant longtemps, parfois vos mamelons font mal. Vous développez des douleurs aux mamelons et cela dérange parfois beaucoup de femmes d'allaiter exclusivement. Cela peut être résolu car vous pouvez appliquer des traitements comme le beurre de karité, appelé ori dans la langue locale, ce qui convient à l'enfant et n'est pas nocif.
L'allaitement exclusif aide à créer le rapprochement entre la mère et l'enfant. Il est très important pour les mères qui travaillent de trouver une solution. C'est assez difficile car les heures de travail interfèrent avec le temps que vous avez pour votre enfant. Mais si vous pouvez trouver un moyen de vous ajuster, il est préférable de donner à votre enfant le lait maternel pendant les 6 premiers mois de sa vie. Je l'ai fait avec mon 2e bébé et j'ai aimé le résultat.
Alors, Madame Cissé, vous avez donc vu ce reportage. Quelle est votre réaction?
Elle a parfaitement raison et c'est une grande difficulté dans nos pays et ouest africains parce que la plupart du temps, les congés de maternité sont de 2 ou 3 mois. Mmh. Et la recommandation internationale, c'est de poursuivre l'exclusivité de l'allaitement jusqu'à 6 mois. Et à la fin des congés de maternité, la femme doit reprendre son service. Et donc, comment faire pour poursuivre l'allaitement, l'exclusivité de l'allaitement? Et donc, Live and Thrive est en train de beaucoup travailler sur ce sujet-là.
Oui.
Il a déjà expérimenté sur d'autres continents, en Asie. C'est en cours au Nigeria. À travailler avec les gouvernements pour l'extension, de la durée des congés de maternité, mais également pour la création d'un environnement favorable dans les structures où travaillent ces femmes qui allaitent.
D'accord. En tout cas, Madame Maïta, si c'est le message est passé, merci beaucoup de
nous
avoir
rejoints
aujourd'hui. Si vous avez des questions ou pour toutes vos réactions, rejoignez-nous sur la page Facebook de VOA Afrique ainsi que sur notre site web voaafrique.com. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter @linormoudou. C'est la fin de cette édition de Carnet de santé. Merci de nous avoir suivis. D'ici la semaine prochaine, portez-vous bien et à très bientôt.
C'est la fin de cette édition hebdomadaire de Votre santé, votre avenir. Ce programme était consacré à l'automédication. Le professeur Francine Ntoumi a expliqué les précautions à prendre quand on recourt à cette pratique, mais surtout les risques auxquels on s'expose en pratiquant l'automédication. Le professeur Francine Ntoumi est biologiste moléculaire et présidente de la Fondation congolaise pour la recherche médicale à Brazzaville, en République du Congo. Elle est aussi très impliquée dans la formation des étudiants et des personnels en recherche biomédicale. Dans la seconde partie de notre magazine, vous avez suivi Carnet de santé avec Linor Moudou. Il portait sur l'allaitement maternel. Ce programme santé a été réalisé grâce au concours de Michel Joseph. Je suis Nanit Talani. Continuez d'écouter VOA Afrique et n'oubliez surtout pas de prendre soin de votre santé, car votre santé, c'est votre avenir.
VOA Afrique.